Bien, bonjour, frères et sœurs. On continue l'étude de l'Évangile de Jean, donc un des quatre évangiles. Et l'Évangile de Jean est particulier, il est différent des trois autres, où il s'attarde beaucoup à des discours que Jésus a faits. Il complète les autres évangiles et il s'attarde dans plusieurs chapitres au dernier entretien que Jésus a eu avec ses disciples avant de mourir, avant de donner sa vie pour nous. Donc c'est comme son legs, là, son testament là, qu'il nous lègue. C'est pendant la semaine de Pâques que la mort de Jésus approche bientôt. Il a aussi annoncé qu'il allait ressusciter. Mais à ce moment-là, ça dépasse la compréhension des disciples qui ne comprennent pas ce qu'il leur dit. Mais il leur laisse des messages et des actions mémorables. On a vu il y a quelques semaines qu'il s'est agenouillé aux pieds de ses disciples pour laver leurs pieds. Ça, c'est un geste qu'ils n'ont jamais oublié et que Jean nous rapporte. Il les a marqués. Un geste de soumission, un exemple d'amour. Et il veut qu'on l'imite dans ce geste. Il leur a annoncé aussi la trahison de l'un d'eux. Donc, ses plus proches collaborateurs qui ont marché avec lui pendant 3 ans, il leur dit, l'un de vous va me trahir, va me livrer aux Juifs pour me faire mourir. Et eux, ils ne comprennent pas, même lorsque Jésus dévoile qu'il s'agit de Judas, ils ne comprennent pas à ce moment-là. Ça va devenir plus clair par la suite. Mais ils sont troublés. Et en plus, Jésus ajoute qu'il leur annonce qu'il est sur le point de s'en aller. Il va partir d'un endroit où ils ne pourront pas le suivre. Et là, il précise qu'il s'en va au ciel auprès de son Père, ce qui est une bonne nouvelle. Mais pour eux, ils sont quand même troublés. Et Jésus les exhorte, les encourage pour qu'ils ne soient pas troublés. Il leur fait une belle promesse, qui est une promesse pour nous aussi. Qu'il va revenir un jour, les chercher, les amener avec lui, pour qu'ils soient pour toujours avec lui. Le retour du Seigneur Jésus, c'est ce que nous attendons encore aujourd'hui, c'est notre espérance. C'est ce qui termine même la Bible, hein? Je viens bientôt. Et nous élevons nos voix, Maranatha, reviens. Et c'est pas tout, pendant son absence aussi, il ne veut pas que les chrétiens sentent qu'ils sont abandonnés, laissés à eux-mêmes, et il a promis qu'il enverrait son esprit dans l'attente pour qu'il soit présent avec nous. Donc même s'il n'est pas en chair et en os, présent avec nous, il l'est en esprit, tout autant, par son Esprit Saint, et ça, il l'a fait. Et si vous êtes croyant depuis un certain temps, ou même récemment, sûrement que vous pouvez témoigner que le Saint-Esprit est présent en vous, qu'il vous transforme, et qu'il vous procure ce que Jésus a promis. Après avoir parlé de la trahison de Judas, et Judas a quitté, Jésus maintenant va en profiter pour déclarer comment on fait pour distinguer un vrai chrétien d'un faux chrétien. Comment on peut être... Qu'est-ce qui fait qu'on est un vrai disciple? Donc, on va étudier aujourd'hui Jean chapitre 15. Je vous invite à tourner. Chapitre 15. On va aller jusqu'au verset 17, finalement. Jean 15, verset 1 à 17. Et on va le voir en deux parties. Les deux parties tournent autour d'être un disciple. Et la première partie, les versets 1 à 8, c'est comment on est un disciple nous-mêmes, et ensuite, à partir du verset 9, comment on fait des disciples, comment on se reproduit, sous le même thème qui est très près, vous allez voir. Donc, comment on est un disciple et comment on fait des disciples. Jean 15, lisons d'abord les versets 1 à 8. Moi, c'est Jésus qui parle, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Mais tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le serment ne peut porter lui-même du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous le demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis, l'on ramasse les sarments que l'on jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Donc, on note que le passage commence, Jésus dit « Moi, je suis le vrai cep ». Et ce n'est pas la première fois qu'il utilise cette expression. Il commence par « Je suis ». Il y en a sept, en plus, dans l'Évangile de Jean. La première fois qu'il dit « Je suis le pain de vie ». Vous vous souvenez? « Je suis le pain de vie ». Donc, c'est toutes des illustrations qui révèlent de plus en plus qui il est. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Et qu'est-ce qu'il fait pour nous par la suite? Il a dit aussi « Je suis la lumière du monde ». Donc, le monde est dans les ténèbres, mais là, la lumière est venue pour éclairer. Il a dit aussi « Je suis la porte des brebis ». Donc, les brebis, elles veulent pouvoir aller dans les pâturages et avoir une vie abondante, une vie même éternelle. Elles doivent passer par la porte, l'unique porte qui est Jésus. Et elles ne peuvent être menées que par un bon berger. Et il y en a un seul qui est vraiment bon, le bon berger, Jésus. Et Jésus dit « Je suis le bon berger ». Il dit aussi « Je suis la résurrection et la vie ». Il est la résurrection lui-même, il est la source de la vie. Et il ajoute, on a vu ça il y a quelques semaines, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est le chemin. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il ajoute même que personne ne peut aller au Père si ce n'est que par lui. Il est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Il est la seule vérité. Donc, tout chemin, tout effort religieux pour plaire à Dieu, ou essayer de gagner une place auprès de lui, qui se fait en dehors de Jésus, est faux. Ce n'est pas la vérité. Et ce matin, il dit « Je suis le cep ». C'est la dernière fois qu'il fait une déclaration comme ça. « Je suis le cep ». Un cep, vous savez ce que c'est? On utilise rarement ce mot-là, mais ça veut dire un plant de vigne. Où on habitait en campagne à Saint-Jacques, il y avait une vigne qui poussait sur le bord de la maison, une autre qui poussait sur le bord d'une clôture. Donc, le cep pousse, puis ça peut être très long. Donc, c'est la tige principale de la vigne, sur laquelle il y a des branches qui poussent, et les branches sont appelées des sarments. Et c'est sur les sarments que vont pousser les raisins. Ils sont censés pousser des raisins. Donc, Jésus utilise une parabole ici qui m'enseigne une vigne. Donc, ce n'est pas une longue histoire, mais c'est une belle illustration qui est mémorable et qui parle fort pour les gens de l'époque. Donc, c'est une vigne et lui-même, il est la cige principale. Il est le plant de vigne. Donc, ça révèle qui il est. Là. Et le propriétaire de la vigne, c'est qui? Le vigneron? C'est Dieu le Père. Donc, si la vigne peut produire, ça va être pour Dieu. C'est sa vigne. C'est des fruits qui vont lui être agréables à lui. Les sarments, ce sont tous ceux qui prétendent être des serviteurs de Dieu. Il y en a des vrais, il y en a des faux. Et les fruits, les raisins, ce sont les œuvres des serviteurs de Dieu qui lui plaisent, les bonnes œuvres, par opposition aux mauvaises œuvres. Et Jésus ici est clair, le seul moyen de porter du fruit pour un sarment, c'est d'être connecté au cep. Donc, le seul moyen pour un serviteur de Dieu de porter du fruit, c'est de demeurer en lui, d'être connecté à Jésus. Donc, si on n'est pas en règle avec Dieu par Jésus, on peut faire plein de bonnes œuvres ou penser qu'elles sont bonnes, mais ce ne sont pas les œuvres qui plaisent à Dieu. Ce ne sont pas les fruits. C'est intéressant ici de noter que ce message-là s'adresse premièrement aux Juifs. Comme Paul le dit, l'Évangile, c'est le salut, la bonne nouvelle du salut pour quiconque croit. Mais le Juif, premièrement, puis le Grec, vous et moi. Et Jésus, à ce moment-là, lorsqu'il parle, il est entouré de ses apôtres qui sont des Juifs. Et les premiers à qui, eux, ils vont le prêcher, ça, ce sont des Juifs aussi. Pour les Juifs, l'image de la vigne, elle est bien connue. Ce n'est pas pour rien que Jésus l'utilise. Et c'est lourd de sens. Parce que cette image-là de la vigne, elle est présente dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises. Et dans l'Ancien Testament, la vigne, ça représente le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et le propriétaire, c'est toujours Dieu. C'est lui le vigneron. Et ce qui est spécial ici, c'est que Jésus dit qu'il est le vrai cep, le vrai pied de vigne. Quand Jésus dit qu'il est le vrai quelque chose, en général, toujours, c'est pour dire que cette chose-là existait avant, dans l'Ancien Testament, donc c'était connu des Juifs, mais que cette chose-là était une ombre, un avant-goût, une annonce, un type, qu'on peut dire, Et Jésus, lui, il est l'accomplissement. Donc, ce qui était annoncé par une chose dans l'Ancien Testament, un événement, un objet, une personne, lorsque Jésus arrive, là, on comprend, ah, c'est ça que ça préfigurait. Jésus, il est l'accomplissement. Par exemple, la manne dans le désert, lorsque le peuple d'Israël marchait dans le désert pendant 40 ans, Dieu les a nourris par un pain qui venait du ciel, la manne. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le vrai pain, le pain de vie. C'est moi le vrai pain qui vient du ciel. Donc, la manne était une illustration pour annoncer la venue du pain du ciel en chair et en os, là, le Fils de Dieu qui est venu. Le temple, c'était le lieu de rencontre avec Dieu, la demeure de Dieu sur terre, le lieu où on peut être en contact avec la présence de Dieu. Et Jésus se présente comme le nouveau temple, que même si on le détruit, il va le rebâtir en 3 jours. Il parle de lui. Il est le temple de Dieu lui-même venu sur terre en personne. Jésus est l'accomplissement de toutes les fêtes de l'Ancien Testament. Il est même l'accomplissement de la Pâque qu'il s'apprête à célébrer, que ses disciples s'apprêtent à célébrer avec lui. Il est l'accomplissement du prophète Moïse, celui qui est le législateur, celui par qui Dieu a donné la loi au peuple. Lui, il est le nouveau Moïse. Il est celui qui vient révéler la volonté de Dieu d'une manière complète et parfaite. Et ici, il est la vraie vigne. Donc, dans l'Ancien Testament, la vigne, c'est le peuple d'Israël, comme on disait, qui est censé produire de bons fruits pour plaire à Dieu. Donc, le peuple, c'est un peuple à son service, un peuple de sacrificateurs, mis à part de toutes les nations du monde, pour faire des œuvres qui lui plaisent, qui le glorifient, et à travers le peuple, la gloire de Dieu peut être connue, célébrée sur la terre. Mais ce qui est intéressant, ce qui est malheureux en même temps, c'est qu'à chaque fois dans l'Ancien Testament que cette illustration-là est amenée, que le peuple d'Israël est une vigne, c'est toujours dans un contexte de reproche envers Israël. Ou dans un contexte où on souligne le jugement de Dieu. Soit qu'il y a un jugement qui s'en vient, ou le jugement est venu, puis là, il crie à l'aide pour être secouru. Donc, quand l'image de la vigne est présentée dans l'Ancien Testament, c'est pour montrer l'infidélité du peuple d'Israël, l'incapacité à produire de bons fruits. Ils échouent à répétition. Heureusement, Dieu fait grâce, il vient les secourir, mais cette vigne-là ne produit pas de bons fruits. Et on va aller lire un passage dans Ésaïe, chapitre 5, si vous voulez tourner. Le prophète Ésaïe, chapitre 5. Ah, ceux qui ont une Bible sur leur téléphone, ils ont été plus vite cette fois-ci. C'est pratique. Ésaïe, chapitre 5, verset 1. Or donc, je chanterai à mon ami le chant de notre bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle a produit des fruits infects. Or donc maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Que n'ai-je pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. Or, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture, et voici la forfaiture. La justice, et voici le cri du vice. Bon, c'est des paroles dures, hein? Et ils ont subi le châtiment de Dieu, et Jérusalem, même toute la Samarie, la Judée, ont été détruites, et ils ont été emmenés en captivité. Mais heureusement, il y avait aussi un message d'espérance qui allait s'ajouter même dans le prophète Ésaïe. Jérémie 2, 21 dit aussi, « Je t'avais planté comme une vigne excellente, un plant d'une qualité tout à fait sûre. Comment as-tu changé à mon égard? Vous n'êtes que les boutures d'une vigne étrangère maintenant. » Mais alors que la vigne est montrée comme très décevante et souligne l'infidélité d'Israël, c'est aussi joint avec l'espérance qu'un jour elle sera restaurée, mais particulièrement par un homme, le Fils de l'homme qui doit venir. Et un passage qui en parle, qui est le plus pertinent, c'est le psaume 80. Si vous voulez tourner au psaume 80... À partir du verset 8, psaume 80, verset 8 jusqu'à 18. « Dieu des armées, fais-nous revenir, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, et tu as chassé des nations, et tu l'as plantée. Tu as fait place nette devant elle. Elle a enfoncé ses racines et rempli le pays. Les montagnes étaient couverte de son ombre, et sa ramure était comme les cèdres de Dieu. Elle étendait ses rameaux jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi tu fais des brèches dans cette clôture, en sorte que tous les passants la grappillent, le sanglier de la forêt la foule, et ce qui se meut dans les champs en fait sa pâture? Dieu des armées, reviens donc, regarde du haut des cieux et vois. Interviens en faveur de cette vigne. Protège ce que ta droite a planté et le fils que tu as affermi toi-même. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée et ils périssent devant ta face menaçante. Mais que ta main soit sur l'homme qui est à ta droite, sur le fils de l'homme que tu as affermi toi-même. » Donc les Juifs attendaient le fils de l'homme que Dieu allait affermir et qui allait être joint avec le rétablissement de la vigne, qu'elle serait replantée, qu'elle pourrait porter du fruit pour de bon. Et ce Fils de l'homme, c'est Jésus. En Jésus, lorsqu'il dit « Je suis le vrai cep », il déclare l'accomplissement de cette prophétie, cette espérance, enfin, est arrivée. Mais c'est plus subtil que ça encore, ou plus profond. Lorsque Jésus dit qu'il est le vrai cep, le vrai plant de vigne, c'est que finalement qu'il est le vrai Israël. Tout ce que Israël devait être comme serviteur de Dieu, pour glorifier Dieu, pour lui obéir parfaitement, pour être dans son amour, et le glorifier, ils en ont été incapables. Jésus, lui-même israélite, est Israël par excellence. Donc c'est comme lorsqu'il dit « Je suis le vrai cep, la vraie vigne », c'est un nouveau départ, là. C'est une étape nouvelle dans le plan du salut de Dieu, une nouvelle ère, un nouveau Israël, formé en son centre de Jésus et de tous ceux qui sont greffés à lui, qui sont d'abord des Juifs qui se convertissent à lui. Et heureusement, on apprend que même vous et moi, on peut être connectés à Jésus et faire partie de ce peuple de Dieu, de cette vigne. Donc, c'est un nouveau départ que Jésus établit. Et les Juifs ont un choix à faire lorsque Jésus leur parle. Et encore aujourd'hui, ils ont un choix à faire. Et ils veulent être reconnus comme serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, mais Jésus leur dit, la seule possibilité que vous avez maintenant, c'est d'être attaché à moi. Tout Juif, pour être serviteur de Dieu, doit s'attacher à Jésus. S'il refuse, finalement, il n'est pas reconnu. Pour mener une vie qui plaît à Dieu, pour être serviteur de Dieu, il n'y a pas d'autre moyen que de devenir un disciple de Jésus, un chrétien. C'est la seule manière. Maintenant, ce ne sont pas tous ceux qui disent être disciples de Jésus qui le sont réellement. Il y en a qui le font par tradition. Il y en a qui sont nés presque dans l'Église. Ils ont toujours été chrétiens, comme ils disent, depuis leur naissance. Mais est-ce qu'ils ont réellement cru personnellement? Est-ce qu'ils se sont vraiment connectés à Christ personnellement? Mais Dieu dit qu'on les reconnaît à ce qu'ils portent du fruit. Dieu voit leur fruit. Les serments qu'ils ne portent pas de fruit, bien, en réalité, c'est parce qu'ils ne sont pas réellement connectés au cep. On peut imaginer que la sève ne se rend pas. Et ça arrive, ça, sur un plant de vigne. Il peut y avoir des branches que il n'y a jamais de raisin qui pousse là. Et elles sont comme mortes. Et un serment ne peut pas produire du fruit par lui-même. Il n'y a pas de racine pour tirer les nutriments ou l'eau. Il dépend vraiment du sept. Donc, s'il ne porte pas de fruit, c'est qu'il n'est pas connecté au sept. Et qu'est-ce que fait Dieu? Ici, Jésus nous dit que le vigneron, le propriétaire, qui a le droit de faire ce qu'il veut, lui, il veut une belle vigne. Donc, il retranche les serments qui ne produisent pas de fruits. Et l'image qui est montrée ici, elle est forte. Elle nous parle lorsqu'on connaît ce qui attend dans l'avenir, dans l'éternité, mais les serments sont jetés dehors, ils sèchent, ils sont ramassés pour être jetés au feu, ou ils brûlent. Bon, c'est littéralement ce qu'on fait avec des serments qui ne sont pas bons. On ne garde pas une grosse pile de branches. Ils sont brûlés. Mais ce n'est pas pour rien que Jésus utilise cette image-là. On ne peut pas faire autrement que de penser à l'enfer. L'enfer qui est décrit ailleurs comme étant jeté dehors, là où il y a des pleurs, des grincements de dents, où on n'a plus accès à la présence de Dieu. Où c'est comparé même à un étang de feu, où on brûle, où la fumée monte pour l'éternité. C'est terrible. Mais Dieu le fait pour purifier, épurer sa vigne. C'est un passage qui est difficile dans la manière que Jésus s'exprime, parce que certains, et même à première vue, on pourrait le conclure, certains concluent que c'est possible pour un chrétien, tout à coup, d'être coupé s'il ne produit plus de fruits. C'est possible, certains concluent que c'est possible pour quelqu'un qui est sauvé de perdre son salut. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est ça que le passage dit. Premièrement, les serments qui sont retranchés ne portent pas de fruits. Ce n'est pas des serments tout à coup qui n'en portent pas suffisamment ou qui en ont porté puis que là, ils n'en portent plus. Dans l'illustration de Jésus, c'est plus simple que ça. C'est des serments qui n'en portent pas. Donc, s'ils sont retranchés, pourtant, ils étaient avec lui. Mais s'ils sont retranchés, c'est parce qu'ils n'ont jamais porté de fruits. Donc, notre conclusion, c'est qu'ils ils n'ont jamais été sauvés. Ils n'ont jamais été réellement connectés au cep. Et au moment où Jésus dit cela à ses disciples, ils viennent justement de mettre en évidence que l'un d'eux, Judas, qui a marché avec Jésus, qui était en Christ pendant 3 ans, en réalité, n'a jamais été connecté au cep, n'a jamais été sauvé. Il est appelé le fils de la perdition, un démon. Donc Judas n'était pas sauvé, tout à coup il a perdu son salut. Il n'a jamais été un réel disciple. Pourtant, il était, si on pourrait dire, disciple, un chrétien. Donc c'est encore une vérité aujourd'hui qu'il est possible qu'il y ait des chrétiens qui ont fait profession de foi, mais qui ne portent pas de fruits. Et un jour ou l'autre, ils sont retranchés. Et à la fin des temps, c'est définitif. À moins qu'ils ne se connectent. C'est sûr que c'est une exhortation à rester attaché à Jésus, à se connecter. Et Dieu veut voir une sincérité, une foi réelle, pas seulement une pratique extérieure. Dieu s'occupe non seulement de prendre soin de sa vigne en enlevant les branches mortes, mais aussi il s'occupe des branches qui sont là, qui portent du fruit, et même davantage. L'attention de Dieu n'est pas divisée, là, mais dans le Nouveau Testament, on voit que pendant notre vie jusqu'au retour de Jésus, il s'occupe davantage à ceux, aux branches, aux serments qui sont connectés à Jésus, aux disciples. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les émonde pour qu'ils portent encore plus de fruits. C'est comme si le vigneron prenait les sécateurs puis il coupe les serments, des bouts de serments, là, pour qu'ils poussent davantage et qu'ils reçoivent plus de sève et qu'ils portent encore plus de fruits. Donc, c'est un processus qui peut être douloureux pour les chrétiens, on peut s'imaginer. Peut-être que Jésus sous-entend cela. La correction du Seigneur, qui est pour notre bien, pour qu'on produise plus de fruits. Ça peut être douloureux d'être émondé, mais parfois on en a besoin. C'est pour notre bien et Dieu dit qu'il le fait par amour même. Dans Hébreux 12, il dit, « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. » Parfois, on sait que Dieu est en train de nous reprendre. Dans une épreuve qu'on vit, on dit, « OK, je sais que Dieu est en train de me corriger, mais ne te décourage pas. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. » C'est parce que c'est sa vigne chérie. C'est son bien précieux, là. Et s'ils produisent du fruit, ben c'est qu'ils sont de réels disciples de Jésus. Donc Dieu veut être fier de sa vigne. C'est un sujet de gloire. Ça le glorifie. Et ce qui le glorifie, c'est que ses serviteurs produisent beaucoup de fruits, en abondance. Pas des petites branches qui donnent 2-3 raisins, là, mais des gros raisins, là, comme les grappes de Canaan, là, quand les Israélites ont pris possession de la terre promise. C'est une belle illustration. Il veut qu'on produise des fruits en abondance. Ça ne vient pas de nous, là, sinon on ne serait pas capable. C'est en étant connecté à Jésus qu'on a cet honneur-là. Mais ça, lorsqu'on est des serments qui produisent des fruits en abondance, ça glorifie Dieu. Dieu peut en être fier. Et c'est ce qui montre qu'on est de réels disciples de son Fils Jésus. Maintenant, sur la base de quoi que Dieu va émonder, qu'il va couper des bouts? On va dire, OK, Richard, tel aspect dans ta vie, là, il faut que ça soit coupé. Là. Si je refuse, ben ça peut faire mal. Mais sur la base de quoi que Dieu détermine qu'est-ce qui doit être coupé? Pardon? Bon, je n'ai pas entendu, mais je vais vous donner la réponse. C'est sur la base de sa parole, de sa volonté. Et sa parole, c'est Jésus. C'est sur la base de son enseignement, l'exemple de vie de Jésus, son modèle. C'est pour ça que Jésus, il dit aux apôtres, « Déjà, vous êtes émondés, vous avez été émondés par ma parole. » Il vient de passer 3 ans avec eux, là. Et déjà, ça commence à porter des fruits, là. Et Jésus les a corrigés aussi gentiment à plusieurs reprises, quand même. Il leur fera des reproches sévères parfois, mais donc il les forme. Et Dieu dit qu'il continue cette œuvre-là. Il nous a demandé, mais c'est basé sur la parole de Christ. Donc, pour mener une vie qui plaît à Dieu, c'est essentiel de connaître sa parole. On n'a pas le choix. Donc, c'est un rappel, on se le rappelle souvent, là, mais c'est une nécessité pour être un disciple de Christ de connaître sa parole. Et le meilleur moyen, c'est tout un privilège qu'on a aujourd'hui. On peut la lire n'importe quand. On l'a même sur nos téléphones. Bon, on peut la lire en pleine nuit, alors qu'il fait noir. Donc, on n'a pas d'excuses. Et en la lisant, en la méditant, le Seigneur l'utilise pour pénétrer dans notre cœur, nous transformer, nous émonder. Et lorsqu'on le fait avec soumission, volontairement, bien, ça fait moins mal habituellement. Il y a moins besoin de nous corriger de manière négative. Et Jésus dit qu'il faut que sa parole, en plus, demeure en nous, donc qu'elle reste attachée à nous, que ça devienne naturel. On s'est reconditionné, on a reconditionné notre façon de penser, nos réflexes. Comment on va réagir à tel événement va être différent de la normalité dans la société, parce qu'on a changé, on s'est reprogrammé. Et maintenant, on agit, on réagit selon l'exemple de Jésus. On reste attaché à toutes ses prescriptions. C'est bon de les revoir, qu'est-ce que Jésus nous a commandé, et de les mettre en pratique. Et le meilleur exemple, c'est Jésus lui-même. Donc, on étudie sa vie. On étudie ce que les apôtres disent de lui, ce qu'ils rapportent. Et Jésus ajoute qu'une bonne indication qu'un chrétien a été émondé, qu'il porte beaucoup de fruits, c'est que ses prières sont rendues efficaces même. En général, ce qu'il demande à Dieu lui est accordé. Pourquoi? Parce qu'il prie selon la volonté de Dieu. Il a été émondé, et maintenant, ce qu'il désire plaît à Dieu. Donc, tout ce qu'il va demander, normalement, Dieu va lui accorder. Il va lui dire oui, parce que c'est une banque. C'est selon sa volonté. Dans 1 Jean 5, 14, on dit, « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Mais pour ça, il faut avoir été émondé par la parole de Dieu. Sinon, nos demandes vont être toutes sortes de choses farfelues, puis on ne sait même pas si c'est bon, si ça plaît à Dieu. Mais plus on connaît Dieu, plus on sait ce qui est conforme à sa volonté, et c'est même ça qu'on veut, qu'on désire. On fait de l'Éternel nos délices. Maintenant, il reste une question de fond ici dans ce passage-là. C'est quoi ça, les bons fruits? Et dans cette section du texte qu'on vient de lire, je pense que c'est général. C'est toutes les bonnes choses qu'un chrétien peut faire, toute œuvre qui est bonne, toute bonne action, un bon comportement qui est conforme à la volonté de Dieu, qui est agréable aux yeux de Dieu. Donc ici, c'est général, c'est toute bonne œuvre par opposition aux mauvaises œuvres, les œuvres des ténèbres. Et pour qu'une œuvre soit jugée bonne, il faut aussi que la motivation soit bonne. C'est pas juste une œuvre extérieure. Deux personnes peuvent faire exactement le même geste et l'un, ça va être agréable à Dieu et l'autre, ça ne sera pas agréable parce que Dieu regarde le cœur. Et pour cela, bien, Jésus vient juste de parler, on l'a vu la semaine passée avec Pasteur Ronald, et il vient de parler qu'il envoie son Saint-Esprit pour ça, pour qu'il habite en nous, pour qu'il nous transforme. Donc le lien avec ce passage-là est assez direct, même s'il est sous-entendu. C'est que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui permet aux chrétiens d'être connectés à Jésus. Certains comparent le Saint-Esprit à la sève, qui part du cèpe, qui s'en va dans tous les serments. Mais le Saint-Esprit permet qu'on soit connectés et que nos motivations soient bonnes. Il change notre cœur. C'est pour ça que Galates 5, 22 parle du fruit de l'Esprit, c'est que l'Esprit produit. Ça change la motivation et toutes les actions vont être bonnes. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Bon, c'est peut-être pas dans la même traduction que vous avez l'habitude. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance envers les autres, la fidélité, la loyauté à nos engagements, la douceur qui va de pair avec l'humilité, la maîtrise de soi. Donc, le Saint-Esprit produit tout ça. Donc, nos œuvres vont être bonnes et nous, ça va être de bons fruits sur la plante. Donc, cette première partie du message, là, du passage qu'on a lu, montre l'importance de porter du fruit pour être un disciple de Jésus. Quelqu'un qui prétend être disciple de Jésus, mais que sa vie est tout croche, il n'y a aucun changement avant sa conversion, il n'y a pas d'amélioration dans son attitude, ses intérêts, ses désirs n'ont pas changé, bien, il peut se remettre en question. Est-ce que j'ai cru sincèrement au Seigneur? Est-ce que même Jésus est mon Seigneur? Est-ce que je suis connecté au plan de vigne? Donc, l'importance de porter du fruit pour être un disciple de Jésus. Et la deuxième partie, on va la lire, montre qu'un aspect important de la vie chrétienne, c'est de se reproduire. Donc, de porter du fruit pour former d'autres disciples par l'évangélisation. Donc, porter du fruit, c'est essentiel pour faire des disciples. Et même faire des disciples, c'est un fruit. Et lorsqu'on évangélise, c'est quoi le résumé du message qu'on annonce au monde? On l'a dit tantôt, on l'a lu au début du culte, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Et que si on croit en lui, il nous lave de nos péchés. Nos péchés sont lavés. Tous ceux qui croient en lui sont sauvés. Mais ceux qui croient en lui réellement, sont connectés à lui, font comme lui. Il nous a aimés, et c'est pour ça qu'on peut être pardonné, lavé de nos péchés. Et il nous demande, si on croit en lui, d'aimer. C'est d'ailleurs le commandement qui résume toutes ses prescriptions. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Donc, c'est notre message. Et c'est pour ça que Jésus le rappelle à plusieurs reprises dans le passage. Aimez-vous les uns les autres. Donc, lisons la deuxième partie. C'est du verset 9, dans Jean 15, verset 9 jusqu'à 17. Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami. Parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc, Jésus continue l'illustration de la vigne. Ici, il ajoute que pour être un sarment sur le connecté qui porte du fruit, ça signifie d'être dans l'amour de Jésus. Ça a vraiment un rapport avec son amour. On a saisi l'amour de Christ et on y reste attaché. Et Jésus ajoute que pour rester dans son amour, ça implique une réponse. C'est nécessaire de répondre à cet amour-là en obéissant à ses commandements. Et pour obéir à ses commandements, comme on l'a vu au chapitre 14, il faut d'abord aimer. C'est ceux qui aiment Jésus qui obéissent à ses commandements. Il y a comme ici un cercle. Ce n'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle parfait. C'est que Jésus nous aime. Là, nous comprenons son amour si nous croyons en lui. Et nous l'aimons en retour. Si nous l'aimons, nous obéissons à ses commandements. Et puisque nous obéissons à ses commandements, il nous aime. Donc, c'est un cercle qui est parfait et qui grandit, qui s'affermit jusque dans l'éternité. Ce n'est pas populaire aujourd'hui de parler d'obéissance, parce que ça a l'air rabaissant. Si on obéit à une autorité, c'est comme si on était opprimé, on est rabaissé. Parfois, ça fait même allusion au temps d'esclavage. Mais l'obéissance ici, là, c'est vraiment ce que ça veut dire. De se soumettre à quelqu'un qui est en position d'autorité, qui nous donne un ordre, on accepte de suivre l'ordre qu'il nous a donné. Donc, on considère celui à qui on obéit, qu'on suit, là, comme notre maître. Et même dans le cas de Jésus, comme notre roi, notre Dieu. Il n'y a pas d'autorité plus élevée. Mais ça ne rend pas malheureux, comme les gens peuvent penser. Les gens, parfois, trouvent que les chrétiens sont ben trop zélés, sont trop exagérés. Et ils lisent la Bible tous les jours, ils prient tous les jours, ils sont fous. Ils se lèvent le dimanche matin pour aller à l'église, alors que c'est l'heure du brunch ou c'est l'heure d'écouter un match canadien-États-Unis. On fait des sacrifices qui semblent être une folie pour le monde, mais ça ne rend pas malheureux, ça rend heureux. Et Jésus dit même que ça procure une joie. Il dit, si vous faites ça, si vous restez dans mon amour, vous obéissez à mes commandements, je vous aime et vous m'aimez, je vais vous donner ma joie. Et même, je vais faire en sorte que si ce cercle-là est alimenté, vous produisez du fruit, votre joie va être complète. Vous n'aurez même pas ce sentiment qu'il vous manque quoi que ce soit. C'est le contentement total. Donc, c'est une belle promesse. Et pourtant, Jésus annonçait à ses disciples qu'ils allaient souffrir. Ils allaient avoir des épreuves. Il dit même, dans le plus fort de vos épreuves, vous ne perdrez pas cette joie-là si vous restez dans mon amour. Si vous marchez dans mes voies, vous m'obéissez, vous allez être joyeux, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive dans votre vie. Et le commandement qui résume toute la vie chrétienne, c'est « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » On a vu au chapitre 13, c'était avec notre frère Timothée, que le commandement « Aimez-vous les uns les autres » ça vise d'abord essentiellement les chrétiens entre eux. Jésus veut une communauté, une église, où chaque frère aime ses frères, chaque sœur aime ses sœurs, chaque membre de la communauté, chaque sarment aime les autres sarments. C'est ça qu'il veut, qu'une église soit composée de membres qui s'aiment les uns les autres. Mais ça ne concerne pas que la communauté. C'est un témoignage pour le monde entier. Et ça contribue à faire fructifier le royaume. Il dit dans Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si on est en train de se quereller, de se diviser, de se chicaner, on a de la haine, ça n'aidera pas la cause de Christ, ça va nuire plutôt. Mais si on démontre qu'on s'aime vraiment, qu'on est une église en santé, unie, ça va réjaillir, le témoignage va être efficace, les gens vont croire, « Ah, c'est vraiment des chrétiens, donc. Ils s'aiment. » Ils sont unis. Donc, il y a un lien avec la mission qu'il nous a confiée, le plan pour sauver l'humanité. Donc, lorsqu'on s'affaire à s'aimer les uns les autres, on n'est pas en train d'oublier la mission. C'est au cœur de la mission. C'est faire la mission. C'est pas tout, mais c'est au cœur de la mission. Et Jésus rappelle que ce commandement-là, justement, c'est dans le contexte où il confie la mission d'évangélisation aux apôtres. Il l'a confié à plusieurs reprise, il a parlé de la mission qu'il confie aux apôtres. Ici, c'est plus subtil, mais c'est quand même clair. Si on relit les versets 16 et 17, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez. » C'est vraiment le verbe « aller ». C'est pour ça qu'ils s'appellent des apôtres. Ils ne sont pas que des disciples, ils sont envoyés de Jésus. « Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et ce que je vous commande en allant, en portant du fruit, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Donc, il s'agit d'aller, de porter du fruit, d'entrer en contact avec d'autres personnes, de leur enseigner les principes de s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Quand on partage l'Évangile, on partage l'amour ultime que Jésus a eu pour nous et que le Père a eu pour nous en livrant son Fils. Et Jésus a obéi jusqu'à la mort sans perdre sa joie de servir son Père. Et c'est l'exemple qui nous est donné. Et dans le message de l'Évangile, on annonce aussi le principe de nous aimer les uns les autres. Et ce fruit-là, il peut demeurer. Et je crois ici que lorsque Jésus dit que pour que le fruit demeure, il est en train de parler même des fruits de l'évangélisation. Et entre autres, ou même c'est peut-être même spécifiquement ça qu'il vise, qu'on récolte des fruits de nouvelles conversions, des frères, des nouveaux frères, des nouvelles sœurs, de voir des hommes et des femmes se tourner vers lui, être baptisés, être transformés, être connectés au CEP et commencer eux-mêmes à porter des fruits et à se multiplier. Donc, c'est un fruit qui demeure, et ça demeure pour vrai. Même le jour où on va mourir, qu'il n'y aura plus aucun de nous qui va être vivant, nos actions d'évangélisation vont continuer d'avoir cet effet-là. La prochaine génération va continuer d'exister. Et s'ils n'abandonnent pas le Seigneur, on le souhaite, mais Christ nous promet qu'il va les garder. Mais ils vont continuer, en plus, d'évangéliser. Donc, c'est un fruit qui a commencé par les apôtres, il y a 2000 ans, et qui demeure encore jusqu'à aujourd'hui, et c'est un fruit qui va demeurer pour l'éternité, qui a même une portée éternelle. Rendu au ciel, on va voir cette belle vigne de Dieu qui est parfaitement épurée, remplie de raisins. Donc, dans ce contexte d'évangélisation, pour que les vrais chrétiens portent des fruits et se multiplient, on va faire appel au Seigneur. Et Jésus dit même que si on porte du fruit qui demeure, bien, on va pouvoir prier Dieu au nom de Jésus et le Père va nous accorder ce qu'on demande. Je pense qu'ici, c'est vraiment plus précisément dans le contexte de l'évangélisation. On aime le Seigneur, on obéit, on prie pour qu'il y ait des conversions, il va en avoir. On n'a pas à douter, comme si Dieu nous répondait, « Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il faut parfois patienter, mais Dieu répond. Il y a des nouvelles conversions. Et c'est tout un honneur que Jésus nous fait en nous révélant ce plan merveilleux-là de Dieu, le plan du salut pour l'humanité. C'est un grand honneur qu'il nous fait et il nous dit que tout ce que Dieu le Père lui a donné de dire, il l'a dit, il l'a livré. Donc, lorsqu'on consulte tout le Nouveau Testament, et même qui nous aide à comprendre comment tout cela avait été annoncé dans l'Ancien Testament, toute la Bible, en fait, c'est ce que Dieu a voulu nous révéler, et puis c'est énorme. C'est tout un privilège. Il n'était pas obligé de nous révéler tout ça. Donc, là, on sait ce qui va se passer d'ici la fin des temps, et même pour l'éternité. Ça inclut la révélation dans l'Apocalypse, toutes les prédictions qui sont faites. Si on sait qu'on va marcher avec Dieu pour l'éternité sur la nouvelle terre, c'est parce qu'il nous l'a révélé, donné l'espérance. Mais tout ça, il le fait parce qu'il veut une relation intime avec nous. Et Jésus nous dit qu'il nous appelle, à cause de cela, ses amis. C'est tout un privilège qu'il nous a fait. Nous sommes ses amis, nous ne sommes plus appelés des serviteurs. Nous sommes encore des serviteurs, c'est sûr. Paul se présente comme le serviteur de Christ, l'esclave de Christ. Mais en plus d'être ses serviteurs, il y a une coche de plus, c'est que nous sommes ses amis. Là, ici, c'est bon de distinguer. C'est quoi la différence entre un serviteur et un ami dans le contexte où il y a un seul roi? C'est pas au niveau de l'obéissance qu'il y a une différence. C'est pas qu'un serviteur doit obéir au commandement puis que l'ami n'a pas besoin. Dans un royaume, quand il y a un roi, tous les sujets du royaume, qu'ils soient des serviteurs de plus basse classe ou ses conseillers haut placés, ses amis intimes qui mangent à sa table, tous doivent une obéissance absolue. Donc, la différence ne se situe pas au niveau de l'obéissance. Elle se situe au niveau de l'intimité. Le serviteur, le roi, peut lui dire, « Va couper l'arbre là-bas et amène-moi le bois. » Il n'a pas besoin de savoir pourquoi. Mais son ami, le roi, va lui expliquer son projet. Il va même le faire partie intégrante de son projet. Il fait l'honneur d'organiser avec lui, de travailler avec lui. C'est ce que Jésus fait. Donc, on n'est pas seulement aux ordres de Jésus, maintenant, on est ses amis, il nous révèle le plan de match. Là. C'est tout un honneur qu'il nous a fait. Et comme Jésus s'adresse ici en premier aux Juifs, et après le message va être transmis à toutes les nations, mais c'est intéressant d'observer la progression qu'il y a eu entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le plan de Dieu pour sauver l'humanité n'était pas encore tout révélé. Comme Ronald le soulignait tantôt, c'était un mystère dans l'Ancien Testament. Et ils obéissaient à Dieu sans connaître vraiment comment ça allait de quoi le dénouement. Et ils étaient le peuple serviteur de Dieu. Maintenant que tout nous a été révélé, on a eu même la révélation en personne, Jésus qui est venu sur terre, là on est dans une relation beaucoup plus intime. Et Jésus offre aux Juifs de se joindre, d'être connectés à ce cep pour devenir les amis de Dieu, les amis du vigneron, les amis de la vigne, du cep. Donc, en conclusion, on voit l'importance qui est primordiale de rester attaché à Christ. Même si on sait que si on est sauvé, on ne peut pas perdre son salut. Mais ça reste une exhortation solennelle. Si on n'est pas connecté au cep, on ne peut pas porter du fruit. Et normalement, ce qui nous attend, c'est d'être jeté au feu. Ça n'arrivera pas parce que Dieu va nous garder, mais l'avertissement est là. Et c'est sérieux. On doit être attaché au cep. Sinon, on va travailler en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, on a beau se lever à 2 heures du matin, se coucher à minuit, on travaille en vain. Donc, on ne porte pas de fruit qui plaît à Dieu. On travaille pour rien. On sait bon de sonder son cœur. Quelle est ma motivation? Pourquoi je veux faire telle ou telle chose? Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça plaît à Jésus? Comment je réagis? Puis, tout dépend de l'amour qu'on a pour Jésus. Je vous pose la question, est-ce que vous aimez Jésus? Je vous crois. Mais redoublons d'ardeur pour lire sa parole, pour consulter, pour relire. Qu'est-ce qu'il nous prescrit? Quand on aime quelqu'un, on veut lui plaire. C'est notre ami. Donc, relisons la Bible quotidiennement, prions, demandons-lui qu'il nous transforme pour être sûr qu'on lui est agréable. Développons un amour profond pour Jésus. Laissons Dieu nous émonder aussi, parfois, même si ça fait mal, ne nous décourageons pas. C'est pour notre bien, c'est toujours pour notre bien, pour qu'on porte encore plus de fruits, qu'on fasse sa fierté, qu'on le glorifie. Je vais conclure en lisant 2 Thessaloniciens 3, 2, qui dit, « Quant à nous, frères bien-aimés, par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes. Retenez les instructions que nous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, il nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, et qu'il console vos cœurs, qu'il vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Amen.